Chapitre 12. Éducation nationale. Les heureux effets qui résultent de l'éducation privée seront toujours infiniment bornés et le père qui réellement s'occupe lui-même de cette tâche pénible sera toujours à quelques égards trompé dans ses espérances jusqu'à ce que l'éducation devienne un grand intérêt national. Un homme ne peut se retirer dans un désert avec son fils et quand il le ferait, il ne peut lui-même revenir à l'enfance et devenir l'ami et le compagnon des jeux de l'enfance ou de la jeunesse. Quand les enfants sont enfermés dans la société des hommes et des femmes, ils acquièrent bientôt cette espèce de maturité précoce qui arrête le développement de toutes les facultés de l'âme et des forces du corps. Veut-on faciliter l'essor de ces facultés, il faut les exciter à penser par eux-mêmes, et c'est ce qui ne peut se faire qu'en réunissant un certain nombre d'enfants ensemble et en leur faisant suivre de concert les mêmes objets. Un enfant contracte bientôt une indolence ou engourdissement d'esprit qu'il a rarement dans la suite la force de secouer. Quand il fait une question pour se dispenser de réfléchir, et qu'il se repose en aveugle sur la réponse qu'il reçoit avec ceux de son âge, il n'est pas exposé au même danger, et le sujet de ses recherches, quoiqu'il puisse être influencé, ne saurait être entièrement sous la direction des hommes, qui souvent émoussent, si même ils ne les détruisent pas, les talents des enfants en voulant en faire des fruits hâtifs. Par cette raison, ces talents seraient conduits trop tôt à leur maturité. Si l'enfant était confiné dans la société d'un homme, de quelque sagacité que cet homme fût doué. En outre, c'est pendant la jeunesse qu'il faut déposer dans ses aines tendres le germe précieux de toutes les affections. Et le respect que l'on sent pour un père est très différent des affections sociales qui font le bonheur de la vie à mesure qu'on y avance. L'égalité en est la base, ainsi qu'un commerce de sentiments qui n'est point gêné par ses différences, ce respect qui prévient la dispute sans assurer la soumission. Quelque attachement qu'ait un enfant pour son père, il brûlera toujours de babiller et de jouer avec des enfants. Et ce même respect, cette même estime filiale, mêlée de quelques craintes, s'ils ne lui font pas prendre l'habitude de la ruse, l'empêcheront au moins de confier ses petits secrets qui ouvrent le cœur à l'amitié et à la confiance et le mènent par degrés à une bienveillance plus expansive. Déterminé par les réflexions que doit inspirer la vue de nos écoles, telles qu'elles sont à présent, je m'étais d'abord déclaré assez vivement en faveur de l'éducation privée. Mais depuis, l'expérience m'a fait voir la question sous un jour différent. Je persiste cependant à penser que nos écoles actuelles sont la pépinière du vice et de la folie et que la connaissance de l'homme qu'on est supposé y puiser se borne à la ruse et à l'amour-propre. Dans les public schools comme Eton ou Harrow ou encore Rugby, les garçons deviennent gourmands et sales. Et au lieu de cultiver des affections domestiques, ils se plongent de bonne heure dans un libertinage qui détruit le tempérament avant qu'il soit formé et endurcit le cœur en éveillant prématurément l'intelligence. Je devrais être prévenu contre ces écoles quand il n'y aurait pas d'autre raison que l'incertitude d'esprit que produit l'attente des vacances. C'est vers ce but que tendent les vœux empressés des enfants. C'est là l'époque qu'ils appellent avec toute l'ardeur de leur espérance, environ la moitié du temps pour ne rien dire de plus, et quand elles arrivent, ils les passent dans une dissipation totale et dans une liberté dangereuse. Au contraire, quand ils sont élevés dans la maison paternelle, quoiqu'ils puissent suivre un plan d'études d'une manière plus méthodique, que lorsqu'environ le quart de l'année se passe dans l'oisiveté, et un autre quart en regret et en désir, cependant, l'habitude qu'on leur laisse contracter de tyranniser les domestiques leur fait prendre une trop haute opinion de leur propre importance, ainsi que l'inquiétude de leur mère sur la grossièreté de leur manière. Car il arrive trop souvent qu'une mère, en voulant donner à son fils l'air et les talents qui caractérisent un rang honnête, étouffe dans leur naissance les vertus de l'homme. Ainsi menés en compagnie, quand ils devraient être sérieusement occupés et traités comme des hommes, quand ils ne sont encore que des enfants, ils deviennent vains et efféminés. Le seul moyen d'éviter deux excès également contraires aux mœurs serait de combiner l'éducation publique avec l'éducation privée. Pour faire des hommes et des citoyens, on pourrait prendre deux routes qui mèneraient directement au point désiré. On cultiverait les affections domestiques qui ouvrent le cœur aux diverses modifications de l'humanité. Et néanmoins, on laisserait les enfants passer sur le pied d'égalité une grande partie de leur temps avec d'autres enfants. Je me rappelle encore avec plaisir une école de campagne où un garçon se rendait dès le matin, par un temps sec ou humide, portant ses livres et son dîner. Lorsqu'elle est à une distance considérable, un domestique ne mène pas le jeune monsieur par la main. Une fois habillé, on le livre lui-même, et il revient seul le soir raconter les faits du jour en se serrant contre les genoux paternels. La maison de son père est sa première patrie, et ce n'est jamais qu'avec tendresse que par la suite il s'en rappelle le souvenir. J'en appelle à quelques hommes supérieurs qui ont été élevés de cette manière. Le souvenir du sentier ombragé où ils ont appris leurs leçons, du tertre de gazon où ils ont fait leur cerf-volant ou raccommodé une batte, toutes ces impressions premières et si vives, ne leur ont-elles pas rendu leur pays plus cher? Mais quel souvenir agréable peut-il rester aux garçons des années qu'ils ont passées dans une prison étroite? Je parle des écoles voisines de Londres, à moins qu'ils ne se rappellent par hasard l'épouvantail d'un précepteur qui l'a tourmenté, ou le vendeur de gâteaux dont il achetait des tartelettes pour les dévorer avec la friandise de l'égoïsme. Dans les écoles de toute espèce, la récréation des plus jeunes est méchanceté et celle des plus grands est vice. Dans nos universités, peut-il y avoir rien de plus funeste à la moralité du caractère que le système de tyrannie et d'abject esclavage établi parmi les jeunes gens, sans parler de l'asservissement aux formes qui fait de la religion une véritable force? Quel bien pouvez-vous attendre d'un jeune homme qui reçoit le sacrement de la scène pour éviter de payer une demi-guinée qu'il dépense probablement ensuite d'une manière sensuelle? Les jeunes gens mettent une grande partie de leur méditation à éluder la nécessité d'assister au service divin, et ils n'ont pas tout à fait tort, car une répétition aussi constante des mêmes choses est une entrave bien fatigante pour leur vivacité naturelle. Puisque ces cérémonies ont le plus mauvais effet sur leurs mœurs, et qu'un rituel suivi seulement des lèvres, et auquel le cœur et l'esprit n'ont aucune part, n'est pas maintenant regardé par notre Église comme une banque sur laquelle on tire des lettres de change pour les pauvres âmes du purgatoire, pourquoi ne serait-il pas aboli? Mais dans ce pays, la crainte des innovations s'étend à tout. Ce n'est que la crainte mal dissimulée, l'appréhensive timidité de dormeurs indolents, qui gardent en glissant, pour ainsi dire, le lit de repos, qu'ils regardent comme un héritage, et qui boivent, mangent et se réjouissent, au lieu de remplir leurs devoirs, à l'exception de quelques formalités insignifiantes attachées au titre de fondation. Ce sont ces gens qui insistent avec le plus de courage sur la nécessité de remplir les vœux des fondateurs, se récriant contre toute réforme comme si c'était une violation de justice. Je parle ici surtout de ces restes de papisme conservés dans nos collèges, dont les membres semblent être de si ardents zélateurs de la religion dominante. Mais ce beau zèle ne leur laisse pas perdre de vue les dépouilles que, dans les âges de la superstition, la rapacité des prêtres a enlevées pièce à pièce à l'ignorance. Non, ce n'est point du respect qu'ils ont pour les droits de propriété fondés sur la prescription. Ils laissent encore tinter la sonnette pendant les prières, comme au jour où l'élévation de l'hostie était supposée satisfaire pour les péchés du peuple, de peur qu'une réforme ne mène à l'autre et que l'esprit ne tue la lettre. Ces momeries romaines ont le plus funeste effet sur les mœurs de notre clergé. Car cette vermine oisive, qui, deux ou trois fois par jour, remplit de la manière la plus assoupie un service qu'elle croit inutile, et qu'elle appelle son devoir, a bientôt perdu le sentiment de son devoir. Au collège, forcé d'assister ou d'échapper à l'office, ils contractent un mépris habituel pour ce même office dont l'acquittement les met en état de vivre dans l'oisiveté. On le marmotte comme une affaire d'habitude, comme un garçon stupide répète sa leçon, et souvent le jargon de collège échappe au prédicateur, au moment qu'il descend de la chaire, et même quand il mange le dîner, qu'il a gagné d'une manière si peu honnête. Rien, en effet, de moins respectueux que l'office d'une cathédrale, comme il se pratique à présent dans ce pays, et il n'y a pas en Angleterre un troupeau d'hommes plus faibles que ceux qui sont les esclaves de cette puérile routine. On présente encore au peuple, pour ainsi dire, un squelette hideux de l'ancien ordre de choses, mais on a retranché toute cette solennité qui intéressait l'imagination, si elle ne purifiait pas le cœur. La célébration d'une grand-messe, sur le continent, doit, il en faut convenir, porter dans une âme où brille quelque étincelle d'imagination, une mélancolie respectueuse, une sublime tendresse bien voisine de la dévotion. Je ne prétends pas que cette dévotion sentimentale soit d'un plus grand usage que toute autre émotion du goût, mais je soutiens que cette pompe théâtrale qui satisfait nos sens doit être préférée à la froide nudité qui insulte à l'intelligence sans arriver jusqu'au cœur. De telles observations ne sauraient être déplacées parmi des remarques sur l'éducation nationale, surtout par rapport aux défenseurs de ces établissements dégénérés en puérilité qui se donnent pour les défenseurs de la religion. Religion, source pure de consolation dans cette vallée de larmes, comment as-tu souffert que tes ondes limpides fussent souillées par les corrupteurs qui ont eu la présomption de resserrer dans un étroit canal les eaux vives qui sans cesse prennent leur cours vers Dieu, le sublime océan de l'existence. Que serait la vie privée de cette paix que l'amour de Dieu peut seul donner quand il est fondé sur l'humanité? Chaque affection terrestre revient par intervalles déchirer le cœur qui la nourrit, et les plus pures effusions de la bienveillance, souvent et cruellement repoussées par l'homme, peuvent monter comme une offrande libre et volontaire vers celui qui leur donne naissance et dont elles réfléchissent faiblement la brillante image. Dans les public schools, la religion confondue avec des cérémonies fastidieuses et les entraves hors de saison prend l'aspect le plus repoussant. Ce n'est point cette austérité, cette gravité qui commande le respect en inspirant la crainte. C'est un sujet de plaisanterie qui sert à aiguiser une pointe. En effet, la plupart des bonnes histoires et des saillies qui raniment les esprits longtemps occupés du whist sont composées des incidents auxquels ces mêmes hommes s'efforcent de donner un tour plaisant. Il n'y a peut-être pas dans le royaume une classe d'hommes plus dogmatiques ou plus débauchés que les tyrans pédantesques qui résident dans les collèges et président aux public schools. Les vacances sont également funestes aux mœurs des maîtres et des élèves, et le commerce que ces premiers entretiennent avec la noblesse introduit dans leur famille la même vanité et la même prodigalité qui bannissent le devoir et le bonheur domestique de ces grandes maisons, dont ils ont l'absurdité de singer en petit l'air de hauteur et de magnificence. Les jeunes gens qui vivent à grands frais avec les maîtres et leurs collègues n'y peuvent prendre le goût de la société, quoiqu'ils y soient placés dans cette vue. Après un dîner silencieux, ils avalent à la hâte un verre de vin et se retirent pour concerter quelques tours ou pour ridiculiser la personne et les manières des mêmes gens qu'ils viennent de saluer avec beaucoup de respect et qu'ils devraient considérer comme les représentants de leurs parents. Peut-on s'étonner après cela que des jeunes gens, ainsi sevrés de tout commerce avec la société, deviennent vicieux et personnels, aucune mitre souvent embellisse le front d'un de ces diligents pasteurs. Le désir de vivre comme ceux d'un rang au-dessus est la maladie de chaque individu et de chaque classe de citoyens, et la bassesse est la compagne fidèle de cette ignoble ambition. Mais les professions les plus avilissantes sont celles dont le patronage est l'échelon. Et c'est cependant en général dans ces professions que les gouverneurs des jeunes gens sont choisis. Mais peut-on se flatter que des hommes dont la conduite doit avoir pour règle constante cette prudence inquiète qui est toujours aux aguets pour obtenir la préférence puissent inspirer des sentiments d'indépendance et de liberté? Ils sont si éloignés de songer aux mœurs de leurs élèves que j'ai entendu plusieurs maîtres prétendre qu'ils n'avaient d'autre mission que de montrer le grec et le latin et qu'ils ont rempli leur devoir en envoyant de bons écoliers au collège. Un petit nombre de ces étudiants distingués peut, j'en conviens, être formé par la discipline et par l'éducation. Mais pour les pousser et les avancer, on a sacrifié la santé et les mœurs d'un grand nombre. Les fils de notre noblesse et des plus riches membres des communes sont élevés pour la plupart dans ces écoles. Et qui pourrait assurer que la majorité mérite le titre d'un passable étudiant? Ce n'est pas pour l'avantage de la société que quelques esprits brillants sont cultivés aux dépens de la multitude. Il est vrai que de grands hommes semblent paraître, à des intervalles marqués, pour ramener l'ordre troublé par de grandes révolutions et dissiper les nuages épais qui couvrent les traits de la vérité. Mais que la raison et la vertu prennent le dessus dans la société, et ces prodiges ne seront pas nécessaires. L'éducation publique, quelque nom qu'on lui donne, doit avoir pour but de former des citoyens. Mais si vous voulez faire de bons citoyens, il faut d'abord vous livrer aux affections de fils et de frères. C'est là le seul moyen de donner au cœur cette faculté expansive d'où naissent tant de vertus. Car les affections, aussi bien que les vertus publiques, doivent toujours prendre leur source dans le caractère privé, où ce ne sont que des météores qui brillent dans une nuit profonde et s'évanouissent au moment qu'on les admire. Je crois qu'il est peu d'hommes qui aient eu beaucoup d'affection pour l'humanité en général, sans avoir d'abord aimé leurs parents, leurs frères et sœurs, et même les animaux domestiques, compagnons de leur premier jeu. C'est de l'exercice des sympathies de l'enfance que se forme le caractère, et c'est le souvenir de ses premières affections, de ses premiers goûts, qui donne la vie à ceux qui, dans la suite, sont plus soumis à la raison. C'est dans la jeunesse que les plus tendres amitiés sont formées, que les esprits sympathiques, se développant en même temps, se fondent et se mêlent comme des substances homogènes, ou plutôt que le cœur, doué de la trempe nécessaire pour la réception de l'amitié, s'accoutume à chercher son plaisir dans quelque chose de plus noble que la brutale satisfaction de la partie sensitive. Pour inspirer aux enfants l'amour de la maison paternelle et des plaisirs domestiques, il faut que les enfants soient élevés au logis, car des jours de congé passés en débauche ne le leur font aimer que pour eux. Les vacances qui ne nourrissent pas les affections domestiques troublent continuellement le cours des études et rendent impraticable tout le plan de progrès qui exige de l'ordre et de la règle. Et pourtant, si elles étaient abolies, les enfants seraient entièrement séparés de leurs parents. Et je demande s'ils deviendraient meilleurs citoyens en sacrifiant les affections premières, en détruisant la force des relations qui rendent l'état du mariage aussi nécessaire que respectable. Mais si l'éducation privée produit l'air d'importance ou isole un homme dans sa famille, ce n'est qu'un palliatif et non pas un remède. Cette suite de raisonnements me ramène à un sujet qu'il me paraît important d'approfondir, je veux dire à la nécessité d'établir des externats. Mais il faudrait que ce fût des établissements nationaux, car tant qu'un maître est dépendant du caprice des parents, on ne peut guère lui demander plus de développement qu'il n'en faut pour plaire aux ignorants. En effet, la nécessité pour un maître de donner aux parents quelques preuves des progrès d'un enfant, laquelle pendant les vacances est montrée à tous ceux qui viennent en visite chez eux, cette nécessité, dis-je, a des conséquences plus funestes qu'on ne le croirait d'abord. Car il est bien rare que ces preuves soient en entier de la façon de l'enfant, pour ne rien dire de plus. Ainsi, le maître ou appuie une fausseté, ou oblige la pauvre petite machine à quelque effort extraordinaire qui dérange les rouages et arrête les progrès graduels qu'elle aurait pu faire. La mémoire se charge de mots inintelligibles pour en faire une vaine parade sans que l'intelligence acquière aucune idée distincte. Tandis qu'il n'y a d'éducation vraiment digne du beau nom de culture de l'esprit que celle qui apprend aux jeunes gens les éléments de l'art de penser. On ne devrait pas permettre à l'imagination de débaucher l'intelligence avant que celle-ci ait acquis toute sa force et à la vanité de devenir l'avant-coureur du vice. Car de toutes les manières de faire montre des progrès d'un enfant, il n'en est aucune qui ne soit funeste à la moralité de son caractère. Combien de temps on perd à leur apprendre à réciter ce qu'ils n'entendent pas, pendant qu'assises sur des bancs, toutes avec leur plus belle parure, les mamans écoutent avec étonnement ce petit babil de perroquet, cette déclamation ridicule, faite avec toute la pompe de l'ignorance et de la sottise. De telles exhibitions ne servent qu'à faire vibrer les fibres de la vanité dans ces âmes faibles, car elles n'apprennent aux enfants ni à s'exprimer d'une manière aisée, ni à se tenir avec grâce. Tout au contraire, ces frivoles objets pourraient s'appeler l'étude de l'affectation, car il est bien rare à présent de voir un jeune garçon simple et timide. Et cependant, il faudrait avoir bien peu de discernement pour être repoussé par cet embarras et cette simplicité, si naturelle à cet âge, que les écoles et une entrée prématurée dans la société ont changé en impudence et en grimaces de singe. Mais comment remédier à ces abus lorsque les maîtres dépendent absolument des parents pour leur subsistance et lorsque tant d'écoles rivales tendent leurs pièges pour capter l'attention et flatter la vanité des pères et des mères, dont l'affection se borne à désirer que leurs enfants éclipsent ceux de leurs voisins. Sans un grand bonheur, un homme honnête et consciencieux mourra de faim avant de pouvoir lever une école s'il dédaigne de duper de faibles parents en mettant en jeu les ruses secrètes du charlatanisme. Dans les écoles les mieux réglées, où des essaims d'enfants ne sont pas entassés les uns sur les autres, on peut contracter beaucoup de mauvaises habitudes. Mais dans les écoles ordinaires, le corps, le cœur et l'esprit sont également rabougris. Car souvent les parents ne vont qu'au meilleur marché, et le maître ne pourrait pas vivre s'il n'en prenait un plus grand nombre qu'il n'en peut conduire. Et la chétive rétribution qu'il reçoit pour chaque enfant ne lui permet pas de payer assez de sous-maîtres pour le débarrasser de la partie mécanique de ses fonctions. En outre, quelque belle apparence qu'est la maison et le jardin, les enfants ne jouissent ni de l'un ni de l'autre. De tristes défenses leur rappellent sans cesse qu'ils ne sont pas chez eux, et les salons, les jardins, etc. ne sont entretenus que pour la satisfaction des parents qui, le dimanche, viennent visiter l'école et sont trompés par cette même apparence qui rend la situation de leurs enfants plus incommode et plus désagréable. Avec quel sentiment de peine n'ai-je pas entendu souvent des femmes sensibles, car les filles sont plus gênées que les garçons, parler de la retraite fatigante où elles avaient été confinées pendant le temps de leur éducation, ou, n'ayant pas la permission de faire un pas hors d'une large allée dans un superbe jardin, elles étaient obligées de décrire avec une gravité stupide, toujours la même ligne, soit en allant, soit en venant, la tête roide et les pieds bien en dehors, les épaules presque collées l'une contre l'autre, au lieu de suivre l'intention de la nature et de prendre en liberté les diverses attitudes si nécessaires à la beauté. Les esprits animaux, ce fluide pur et actif qui hâte le développement de l'âme et du corps, et présente aux amis de l'enfance l'espérance dans sa fleur, s'altère et s'évapore en vain désir, ou en aigre momerie qui contracte les facultés et flétrissent le caractère, ou bien ils s'élèvent au cerveau et, aiguisant l'intelligence, avant qu'il ait une force suffisante et proportionnée, ils produisent ce misérable penchant à la ruse qui caractérise d'une manière si avilissante l'esprit de notre sexe, et qui le caractérisera toujours tant que les femmes resteront les esclaves du pouvoir. Le peu d'égard que les hommes ont pour la chasteté est, selon moi, la source de la plupart des maux physiques et moraux qui tourmentent l'humanité, aussi bien que des vices et des sottises qui dégradent les femmes et leur font perdre leur dignité. C'est cependant dans les écoles que les garçons perdent infailliblement cette timidité décente que, dans la maison paternelle, les années auraient changé en modestie. Et que d'indécence ne doivent-ils pas apprendre l'un de l'autre quand un grand nombre d'enfants se trouvent entassés dans une même chambre, sans parler des vices qui, en affaiblissant le corps, empêchent l'esprit d'acquérir aucune délicatesse. Le peu de soin que l'on prend de cultiver la modestie parmi les hommes cause une grande dépravation dans toutes les relations de la société. Non seulement l'amour qui doit purifier le cœur et développer toutes les facultés de la jeunesse pour préparer l'homme à remplir tous les devoirs de la bienveillance, est sacrifié à un libertinage précoce, mais toutes les affections sociales sont tuées par les satisfactions solitaires qui, de très bonne heure, souillent l'âme et dessèchent le cœur. Combien la nature a souvent à rougir de la manière dont elle flétrit la fleur de l'innocence, et quelles funestes conséquences tendent à faire dégénérer des vices privés en peste publique. Il est certain que l'habitude de l'ordre et de la décence, qui a plus d'effet sur la moralité du caractère qu'on ne le suppose communément, ne peut se contracter que dans la maison paternelle, où règne cette réserve respectueuse qui tempère la familiarité, laquelle mine insensiblement la tendresse par des offenses répétées lorsqu'elle dégénère en grossièreté. J'ai déjà remarqué les mauvaises habitudes que les femmes contractent lorsqu'elles sont enfermées ensemble, et je pense que cette observation peut très bien s'étendre à l'autre sexe jusqu'à ce qu'on en tire la conclusion que j'ai eue en vue. C'est que, pour bien élever les deux sexes, non seulement dans les familles, mais dans les public schools, il faudrait les élever ensemble. Si le mariage est le ciment de la société, l'humanité doit être élevée sur un semblable modèle, sans quoi le commerce des sexes ne méritera jamais le nom d'association, et les femmes ne pourront remplir les devoirs de leur sexe que lorsqu'elles deviendront des citoyennes éclairées, que lorsqu'elles deviendront libres en devenant capables de se procurer leur subsistance sans être dépendantes des hommes, c'est-à-dire, pour éviter toute fausse interprétation, de la même manière que les hommes sont indépendants les uns des autres. En effet, le mariage ne peut jamais être regardé comme un lien sacré tant que les femmes ne seront pas préparées par une éducation commune à être les compagnes des hommes plutôt que leurs maîtresses. Car les ressources honteuses de la ruse les rendront toujours méprisables tant que l'oppression les rendra timides. Je suis si convaincu de cette vérité que je prédirais presque que la vertu ne prévaudra dans la société que lorsque les vertus des deux sexes seront fondées sur la raison et que lorsqu'on laissera les affections qui leur sont communes acquérir la force dont elles sont susceptibles par la pratique de leurs mutuels devoirs. Si les garçons et les filles suivaient ensemble le même cours d'études, on pourrait leur inculquer de bonne heure ces grâces de la décence d'où naît la modestie, sans ces distinctions sexuelles qui souillent l'esprit. Ces leçons de politesse et ces formulaires de bienséance qui avoisinent la fausseté deviendraient inutiles par l'habitude d'une conduite toujours convenable, qu'on ne prendrait pas comme la robe de cour pour recevoir les visites, mais qui serait le vrai résultat de la pureté de l'âme. Cette élégante sincérité, ce chaste hommage rendu aux affections domestiques, ne serait-il pas bien supérieur à ces compliments que l'usage prostitue et qui brillent d'un faux éclat dans le commerce superficiel d'une vie à la mode? Mais tant qu'une intelligence cultivée ne prévaudra pas dans la société, il y aura toujours disette de cordialité et de goût, et le phare des courtisanes occupera la place de ce coloris céleste que les affections vertueuses peuvent seules répandre sur les traits de l'innocence. La galanterie et ce qu'on appelle amour peut subsister sans l'ingénuité du caractère. Mais les bases solides de l'amitié sont le respect et la confiance. Et qu'est-ce que l'estime qui n'a pas de pareil fondement? Le goût des beaux-arts demande beaucoup de calme. Le goût des affections vertueuses n'en demande pas moins. Et tous deux supposent ce développement de l'esprit qui lui ouvre tant de sources de plaisir. Pourquoi court-on après les scènes bruyantes et les cercles nombreux? Parce que l'âme manque d'activité, parce qu'on n'a pas nourri les vertus du cœur. En conséquence, on ne voit, on a de sensations qu'au milieu du tumulte, on soupire continuellement après la variété, et l'on trouve insipide tout ce qui est simple. Cet argument pourrait être poussé plus loin que les philosophes ne le croient, car si la nature a destiné les femmes en particulier à la pratique des devoirs domestiques, elle les a rendues à un grand degré susceptibles des affections aimantes. Aujourd'hui, les femmes sont avides de plaisir, et suivant ma définition, cela doit être parce qu'elles ne peuvent entrer dans les minutieux détails de la vie domestique qui leur en ôte le goût, faute de jugement, fondement de toute espèce de goût. Car l'intelligence, en dépit des froides plaisanteries des libertins, se réserve le privilège de porter au cœur une joie pure et véritable. Combien de fois j'ai vu jeter de côté, avec le bâillement de la langueur, un poème admirable auquel un homme de goût revient à plusieurs reprises, et toujours avec ravissement. Et pendant que la mélodie suspendait presque la respiration, une femme me demandait où j'avais acheté ma robe. J'ai vu des yeux qui parcouraient froidement un tableau d'un grand maître étinceler de plaisir en s'arrêtant sur une caricature grossièrement ébauchée. Et pendant que quelques traits de la majesté terrible de la nature répandaient dans mon cœur un calme sublime, on me faisait observer les jeux d'un petit chien avec lequel mon mauvais destin me forçait de voyager. Est-il surprenant qu'un être aussi dépourvu de goût aimât mieux caresser ce chien que ses enfants, ou qu'il préférât les exagérations de la flatterie aux simples accents de la sincérité? Pour fortifier cette observation, qu'il me soit permis de remarquer que les génies du premier ordre, que les esprits les plus cultivés, ont toujours paru trouver des délices dans les simples beautés de la nature, et sans doute ils ont dû vivement sentir ce qu'ils ont bien décrit, je veux dire le charme inexprimable que les affaires de la nature et les sensations de l'innocence répandent autour de l'espèce humaine. C'est ce regard perçant qui lit dans les âmes, c'est ce cœur qui palpite et vibre à l'unisson de chaque émotion, qui rend le poète capable de personnifier chaque passion et le peintre de les rendre avec un pinceau de feu. Le vrai goût est toujours le résultat de l'intelligence employée à observer les effets de la nature, et tant que celle des femmes ne sera pas mieux cultivée, c'est en vain qu'on espérera de les voir acquérir du goût pour le bonheur domestique. La vivacité de leurs sensations contribuera toujours à endurcir leur cœur, et les émotions qu'elles éprouveront continueront à être aussi vives que passagères si une éducation plus raisonnable n'enrichit leur esprit de connaissances. C'est le défaut de goût pour la vie domestique, et non l'acquisition des connaissances, qui force les femmes de quitter l'intérieur de leur famille, et qui arrache au sein qui devrait le nourrir l'innocente victime qui lui sourit en vain. On a laissé les femmes dans une ignorance et dans une dépendance servile pendant beaucoup trop d'années. Aussi n'entendons-nous parler que de leur fureur pour le plaisir et la domination, de leur faible pour les aventuriers et les gens de guerre, de leur attachement puéril à des bijoux, et de la vanité qui leur fait attacher plus de prix aux qualités corporelles qu'aux vertus. L'histoire nous fournit un terrible dénombrement des crimes que leurs artifices ont fait commettre, quand ces faibles esclaves ont eu assez d'adresse pour subjuguer leur maître. En France et dans beaucoup d'autres pays, les hommes ont été des despotes capricieux et les femmes de rusés ministres. Est-ce là la preuve que l'ignorance et la dépendance les rendent propres aux douceurs de la vie domestique? Leur sottise n'est-elle pas le refrain des libertins qui cherchent leur société? Et les hommes sensés ne se plaignent-ils pas, sans cesse, qu'une passion excessive pour les ajustements et la dissipation écarte une mère de famille pour jamais de sa maison? Ce ne sont pas les connaissances qui ont débauché leur cœur, ce n'est pas le goût de la science qui a égaré leur esprit. Cependant, en remplissent-elles avec plus d'exactitude les devoirs que, comme femmes, la nature les appelle à remplir? Au contraire, l'état de guerre qui subsiste entre les deux sexes leur fait employer ces ruses qui éludent les desseins les plus marqués de la force. Lors donc que j'appelle les femmes des esclaves, je prends leur esclavage dans un sens politique et civil, car indirectement, elles obtiennent beaucoup trop d'autorité et elles s'avilissent par les efforts mêmes qu'elles font pour se faire un pouvoir illégitime. Une nation éclairée devrait donc essayer quel effet la raison aurait pour les ramener à la nature et à leurs devoirs. Et, en leur faisant partager avec les hommes les avantages de l'éducation et du gouvernement, voir si elles deviendront meilleures en devenant libres et plus éclairées. C'est une épreuve qui ne peut leur faire tort, car il n'est pas au pouvoir des hommes de les rendre plus insignifiantes qu'elles ne le sont à présent. Pour rendre cet essai praticable, le gouvernement devrait établir pour chaque âge, des externats où les garçons et les filles seraient élevés ensemble. L'école pour les plus jeunes enfants, depuis 5 ans jusqu'à 9, devrait être absolument libre et ouverte à toutes les classes de citoyens. Un nombre suffisant de maîtres serait choisi dans chaque paroisse par un comité choisi auquel seraient rapportées toutes les plaintes de négligence, etc., si elles étaient signées par les parents de 6 enfants. Alors des sous-maîtres deviendraient inutiles. Car, selon moi, l'expérience prouvera toujours que cette sorte d'autorité subordonnée est particulièrement funeste aux mœurs de la jeunesse. En effet, est-il rien de plus fort, pour dépraver le caractère, qu'une soumission apparente et un mépris réel? Peut-on se flatter que les jeunes gens témoigneront du respect à un sous-maître, lorsque le maître lui-même semble ne le considérer que sur le pied d'un domestique, fait pour être l'objet du ridicule, qui devient leur principal amusement pendant les heures de récréation. Mais aucun inconvénient de cette nature ne peut avoir lieu dans une école élémentaire d'externe, où les garçons et les filles, les riches et les pauvres, se trouveraient réunis. Et pour prévenir toute la distinction de la vanité, il faudrait qu'ils fussent habillés de même et tous soumis à la même discipline, ou qu'ils quittassent l'école. La classe devrait être environnée d'une large pièce de gazon, où les enfants pourraient s'exercer utilement, car à cet âge, on ne doit pas les astreindre à être sédentaires plus d'une heure de suite. Mais on pourrait faire de ces récréations une sorte d'éducation élémentaire, car il y a beaucoup de choses qui perfectionnent et amusent les gens quand on les donne comme des jeux, au principe desquels l'enfant ferait la sourde oreille s'ils étaient sèchement présentés. Par exemple, la botanique, la mécanique, l'astronomie, la lecture, l'écriture, l'arithmétique, l'histoire naturelle et quelques simples expériences physiques pourraient remplir le jour. Mais ces études n'empiéteraient jamais sur les jeux de gymnastique en plein air. Les éléments de la religion, de l'histoire de l'homme et de la politique pourrait aussi s'enseigner dans des conversations à la manière de Socrate. À 9 ans, les garçons et les filles destinés à des occupations domestiques ou à des professions mécaniques passeraient à d'autres écoles pour y recevoir une instruction appropriée jusqu'à un certain point à chaque individu, les deux sexes restant toujours ensemble le matin. Mais l'après-dîner, les filles se rendraient à une école où l'aiguille, la couture en robe et broderie seraient leur occupation. Ceux qui annonceraient des dispositions plus marquées ou qui seraient plus riches apprendraient dans une autre école les langues mortes et vivantes, les éléments des sciences, et continueraient l'étude de l'histoire et de la politique sur un plan plus étendu qui n'exclurait pas la belle littérature. Les filles et les garçons toujours ensemble, vont demander quelques-uns de mes lecteurs. Oui, toujours. Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est qu'il en pourra résulter quelque attachement prématuré, ce qui aura le meilleur effet sur les mœurs des jeunes gens, mais ne cadrera peut-être pas tout à fait avec les vues des parents. Car je crains bien qu'il ne se passe encore beaucoup de temps avant que le monde soit assez éclairé pour que les parents, uniquement occupés du soin de rendre leurs enfants vertueux, leur abandonnent celui de se choisir eux-mêmes la société de toute leur vie. D'ailleurs, ce serait un sûr moyen de faire marier les jeunes gens de bonne heure, et ces sortes de mariages doivent naturellement produire les plus heureux effets au physique et au moral. Quelle différence entre un citoyen marié et un galant de profession, un célibataire égoïste qui ne vit que pour lui-même et qui souvent ne craint de se marier que parce qu'il ne serait pas capable de vivre honnêtement. À quelques exceptions près, qui doivent être rares dans une société dont l'égalité est la base, l'homme ne peut se préparer à remplir les devoirs de la vie publique que par la pratique habituelle des devoirs d'un ordre supérieur, mais qui forme l'homme. Dans ce plan d'éducation, la santé des garçons ne serait pas ruinée par les débauches précoces qui maintenant rendent les hommes si personnels. Et les filles ne seraient pas rendues faibles et vaines par l'indolence et les arts frivoles. Mais je suppose avant tout qu'il régnerait entre les deux sexes un degré d'égalité qui, en fermant la porte à la galanterie et à la coquetterie, laisse l'amitié et l'amour donner au cœur la trempe nécessaire pour remplir les devoirs les plus importants. Ce seraient là des écoles de morale, et le bonheur de l'homme découlant enfin librement des sources pures du devoir et de l'affection, quels seraient les progrès de l'esprit humain? La société ne peut être heureuse et libre qu'autant qu'elle est vertueuse, mais que les distinctions qui y règnent encore minent toutes les vertus privées et flétrissent toutes les vertus publiques. Je me suis déjà élevé contre l'usage de restreindre les jeunes filles à l'exercice de leur aiguille et de les exclure de toute occupation politique et civile, car c'est en rétrécissant ainsi leurs esprits qu'on les rend incapables de remplir les devoirs particuliers que la nature leur a assignés. Occupées uniquement des petits incidents du jour, elles deviennent nécessairement rusées, artificieuses. J'ai pensé quelquefois me trouver mal en voyant les tours et les ruses employées par les femmes pour obtenir quelques bagatelles qui leur faisaient tourner la tête. Comme on ne laisse pas d'argent à leur disposition et qu'elles ne possèdent rien en propre, elles apprennent à tourner à leur profit les dépenses journalières de la maison, et si un mari leur donne quelques sujets de mécontentement, soit en s'éloignant d'auprès d'elles, soit en leur causant quelques jalousies, une nouvelle robe ou quelque autre bagatelle fléchit le ressentiment de l'altière et sourcilleuse Junon. Toutes ces petitesses ne dégraderaient pas leur caractère si les femmes apprenaient de bonne heure à se respecter elles-mêmes, si le champ de la politique et de la morale leur était ouvert. Et j'ose assurer que c'est là le seul moyen de les rendre attentives à leurs devoirs domestiques. Un esprit actif embrasse tout le cercle de ses devoirs et trouve assez de temps pour tout. Certes, ce n'est pas une entreprise au-dessus de nos forces de rivaliser avec les vertus des hommes. Ce n'est pas le charme des études littéraires ni l'application soutenue aux sciences qui éloignent les femmes de leurs devoirs. C'est l'indolence et la vanité, l'amour du plaisir et celui de la domination qui règnent en maître dans un esprit vide. Oui, vide, je le répète à dessein, parce que l'éducation que les femmes reçoivent à présent en mérite à peine le nom. Le peu de connaissances qu'on les met à portée d'acquérir pendant les années importantes de leur jeunesse se bornent aux talents agréables, à des talents qui n'ont aucune solidité. Car sans la culture de l'esprit, la grâce même est superficielle et monotone. Comme ces charmes d'un visage qui doit beaucoup à l'art, elle ne frappe qu'au milieu d'une assemblée nombreuse. Mais dans l'intérieur de la maison, comme l'esprit est en défaut, elles n'ont pas le piquant de la variété. La conséquence est facile à tirer. Dans les scènes de dissipation, nous ne rencontrons qu'un esprit et un visage apprêtés. Car ceux qui fuient la solitude ne craignent rien tant après elles que les cercles de famille. Et ne pouvant ni amuser ni intéresser les autres, ils sentent leur nullité et ne savent ni s'amuser ni s'intéresser eux-mêmes. D'ailleurs, quoi de moins délicat que la première entrée d'une jeune personne dans le monde? N'est-ce pas, en d'autres termes, mener au marché une demoiselle à marier, qu'on promène d'un lieu à un autre richement paré? En se voyant captif, même au milieu de ce tourbillon, nos jeunes papillons brûlent de voltiger à l'aise, car la première affection de leur âme est leur propre personne, sur laquelle on a appelé leur attention avec un soin extrême, pendant qu'elles se préparaient à l'époque qui décide du destin du reste de leur vie. Au lieu de suivre cette oisive routine, en soupirant pour une ostentation dépourvue de goût, et pour un état où le cœur n'est compté pour rien, avec quelle dignité les jeunes gens des deux sexes ne formeraient-ils pas des attachements dans les écoles dont j'ai donné une esquisse rapide, dans lesquelles, suivant les progrès de l'âge, la danse, la musique, le dessin pourraient être admis comme des récréations? Car les enfants plus riches pourraient y rester plus ou moins longtemps, jusqu'à ce que l'âge ne le permît plus. Ceux qui seraient destinés à des professions particulières pourraient se rendre 3 ou 4 fois par semaine dans des écoles convenables à leur immédiate destination. Je donne pour le présent ces observations comme de premières idées, et plutôt comme une ébauche que comme un plan bien digéré. Mais je dois ajouter que j'approuve hautement un règlement indiqué dans l'ouvrage de l'évêque d'Autun dont j'ai déjà parlé. Celui qui a pour objet de rendre les enfants et les jeunes gens indépendants de leur maître par rapport aux punitions. Il faut qu'ils soient jugés par leur père, méthode admirable de graver profondément dans leur cœur les principes de la justice et dont résulteraient les plus heureux effets sur leur caractère aigris de bonheur ou irrité par la tyrannie jusqu'à ce qu'ils deviennent ou lâchement artificieux ou farouches et arrogants. Mon imagination s'élance avec toute la chaleur de la bienfaisance pour saluer ces aimables et respectables groupes en dépit du rire sardonique des cœurs froids à qui je me permets de prononcer, avec toute l'importance de l'égoïsme, l'accablante épithète de romanesque, épithète dont je veux émousser toute la force en répétant ici les paroles d'un éloquent moraliste. Je ne sais pas, dit-il, si les illusions d'un cœur vraiment humain qui, dans l'ardeur de son zèle, ne voit rien que d'aisé, ne sont pas préférables à cette raison âpre et repoussante qui trouve toujours dans son indifférence pour le bien public le premier obstacle à tout ce qui pourrait y contribuer. Je sais que les libertins ne manqueront pas aussi de s'écrier que l'acquisition de la force de l'âme et du corps ferait perdre aux femmes leur sexe et que la beauté, cette douce et séduisante beauté, cesserait bientôt de parer les filles des hommes. Je suis d'un sentiment tout contraire, et je pense que c'est alors que nous verrions la beauté décente et la véritable grâce, pour la perfection de laquelle il faut le concours de tant de puissantes causes physiques et morales. Ce ne serait pas, il est vrai, une beauté molle, ni cette grâce qui semble résulter de la faiblesse. Mais elle serait de nature à nous faire regarder le corps humain comme un bâtiment majestueux, propre à recevoir un noble habitant au milieu des débris de l'Antiquité. Je n'ai pas oublié que, selon l'opinion commune, les statues grecques n'ont pas été modelées d'après la nature, c'est-à-dire d'après les proportions de tel homme en particulier, mais que ces belles formes, ces belles proportions, ont été empruntées de différents corps pour en former un tout harmonieux. Cela peut être vrai à quelques égards. La belle peinture idéale d'une imagination exaltée peut-être supérieure aux matériaux que le poète trouve dans la nature, et d'après cela, elle peut avec justice être appelée le modèle de l'humanité plutôt que d'un homme. Ce n'était pas cependant le choix mécanique des membres et des traits, mais plutôt l'irruption d'une imagination échauffée ou l'organisation exquise de l'artiste, jointe à l'intelligence cultivée, choisit la matière solide qui doit sortir de ce foyer brûlant. J'ai observé que ce choix n'était pas mécanique, parce qu'il en résultait un tout, un modèle de cette grande simplicité, de cette énergie, de cette correspondance harmonique qui fixe l'attention et commande le respect. Car pour la beauté insipide et sans vie, il suffit d'une servile copie de la belle nature. Mais indépendamment de ces observations, je crois que la forme humaine doit avoir été beaucoup plus belle qu'elle ne l'est à présent, parce que l'excès de l'indolence, des ligatures barbares et beaucoup d'autres causes qui agissent puissamment sur elle, dans notre état actuel de corruption, retardent ses développements ou en altèrent les proportions. L'exercice et la propreté paraissent être les plus sûrs moyens non seulement de conserver la santé, mais d'augmenter la beauté, à n'envisager que les causes physiques. Cependant, elles ne sont pas suffisantes. Il faut le concours des causes morales, sans quoi la beauté ne s'élèverait pas au-dessus de celle qui fleurit dans l'extérieur innocent et frais de quelques personnes de la campagne dont l'esprit n'a pas reçu de culture. Pour qu'elle soit parfaite, il faut que le physique et le moral s'embellissent à la fois et se prêtent et reçoivent tour à tour une nouvelle force. Il faut que le jugement réside sur le sourcil, que le sentiment et l'imagination étincellent dans les yeux et que l'humanité arrondisse les joues, sans quoi le feu du plus bel œil, l'ensemble des plus beaux traits, la plus élégante tournure sont sans effet, tandis que la grâce et la modestie doivent briller dans les moindres mouvements où se déploient des membres agiles et de souples articulations. Mais ce bel assemblage ne peut être le produit du hasard. C'est la récompense des efforts réunis pour que l'un vienne à l'appui de l'autre. Car le jugement ne peut être acquis que par la réflexion, le sentiment que par la pratique des devoirs, et l'humanité que par l'exercice de la compassion envers toutes les créatures animées. La pitié pour les animaux devrait entrer pour beaucoup dans l'éducation nationale, car ce n'est pas à présent une de nos vertus. La sensibilité pour ces humbles et muets domestiques se trouve plus communément dans un état sauvage que dans un état civilisé. La civilisation s'oppose à ce commerce habituel d'où résulte l'affection dans une hutte grossière ou dans une cabane de terre, et comme les esprits sans culture ne participent que par la dépravation au raffinement d'une société où le pauvre est foulé aux pieds par le riche, elle leur inspire le désir de dominer sur les animaux pour se venger sur eux des insultes qu'ils sont obligés de souffrir de la part de ceux qui sont au-dessus d'eux. Cette habitude de cruauté se prend d'abord dans les écoles, où c'est un des grands plaisirs des enfants de tourmenter les malheureux animaux qui leur tombent sous la main. À mesure qu'ils avancent en âge, ils passent par une transition presque insensible de cette barbarie à la tyrannie domestique sur leurs femmes, leurs enfants et leurs gens. La justice ou même la bienveillance ne peut pas être une source puissante d'action, à moins qu'elle ne s'étende à tous les objets de la création. Et je crois qu'on peut regarder comme un axiome que ceux qui peuvent voir souffrir de la douleur sans en être touchés apprendront bientôt à en causer eux-mêmes. Les âmes vulgaires sont menées par les sensations du moment et les habitudes qu'ils ont contractées par hasard. Mais des sensations partielles en beau être juste, on n'y peut pas trop compter. Les sympathies dans notre nature sont fortifiées par de puissantes méditations et anéanties par le défaut de réflexion. Le cœur de Macbeth palpita davantage pour un seul meurtre que pour cent autres que le premier rendait nécessaire. Mais quand je me suis servi de l'épithète « vulgaire », je ne prétends point borner mes remarques aux pauvres. Car cette humanité partielle, fondée sur la sensation du moment ou sur un caprice, est au moins aussi frappante, si elle ne l'est pas davantage, chez les gens riches. Une femme qui verse des larmes pour un oiseau pris au piège, qui déteste ces diables à figure humaine qui aiguillonnent un pauvre bœuf jusqu'à le rendre fou, ou fouettent l'âne patient, chancelant sous un fardeau au-dessus de ses forces, cette femme si sensible n'en laissera pas moins son cocher et ses chevaux l'attendre des heures entières, exposés aux rigueurs d'un froid piquant, ou aux torrents de pluie qui battent des jalousies bien closes, où ne peut pénétrer le moindre air, pour l'avertir combien le vent souffle avec violence. Et celle qui partage son lit avec ses chiens et les soigne avec une sensibilité d'ostentation lorsqu'ils sont malades, laissera ses enfants croître dans une pension avec des difformités. Des faits dont j'ai été témoin viennent à l'appui de mon raisonnement. La femme que j'ai eue en vue ici était belle et passait pour telle près de ceux qui s'inquiètent peu de l'esprit quand une femme est fraîche et agréable. Son intelligence n'avait pas été détournée des devoirs de son sexe par les lettres, et son innocence n'avait pas été altérée par les connaissances. Elle était femme dans toute la force du mot, et loin d'aimer les animaux qui remplissaient la place que ses enfants auraient dû occuper, elle débitait en grasseyant un joli jargon, moitié français, moitié anglais, pour plaire aux hommes qui s'empressaient autour d'elle. L'épouse, la mère, la créature humaine, disparaissaient devant le caractère factice qu'avait produit une éducation peu convenable et la vanité égoïste de la beauté. Je n'aime point à faire une distinction sans établir une différence, et j'avoue que j'ai été autant repoussé par la belle dame qui serrait son épagnole contre son sein au lieu de son enfant que de la férocité de cet homme qui, battant son cheval, assurait que l'animal savait quand il faisait mal aussi bien qu'un chrétien. Ces exemples de sottise montrent quelle était l'erreur de ceux qui, en permettant aux femmes de sortir de leur harem, ne cultivent pas leur intelligence, ce qui serait nécessaire pour déposer le germe des vertus dans leur cœur. À l'aide de ce flambeau, elles acquerraient ce goût pour la vie domestique qui les conduirait à l'amour de toute leur famille, mais avec la gradation convenable, depuis le mari jusqu'au chien de sa maison, et elles n'insulteraient pas l'humanité dans la personne de leur domestique, en s'occupant plus du bien-être d'une bête que de celui de ses semblables. Mes observations sur l'éducation nationale ne sont que des idées jetées au hasard, mais je désire surtout établir la nécessité d'élever les deux sexes ensemble pour les perfectionner tous les deux, et de faire dormir les enfants dans la maison paternelle afin de leur apprendre à l'aimer. En même temps, pour que les affections privées servent de base aux affections publiques, au lieu de les étouffer, il faut les envoyer à une école où ils puissent se mêler avec un certain nombre de leurs égaux. Car ce n'est qu'à l'école de l'égalité que nous pouvons nous former une juste opinion de nous-mêmes. Pour rendre l'humanité plus vertueuse et par conséquent plus heureuse, les deux sexes doivent agir d'après le même principe. Mais comment peut-on se flatter d'y parvenir quand on ne permet qu'à une moitié d'en voir la justesse? Pour rendre juste le compas social, et pour répandre ces principes lumineux, qui seuls peuvent améliorer le sort de l'homme, il faut permettre aux femmes de fonder leurs vertus sur la base des connaissances, ce qui est presque impossible si elles ne font pas les mêmes études que les hommes. Car, pour le présent, elles sont si fort au-dessous d'eux, par l'ignorance et la frivolité de leurs désirs, qu'elles ne méritent pas d'être mises dans la même classe. Ou, si elles gravissent à l'arbre de la science, ce n'est que par les détours tortueux de la ruse, et elle n'en acquiert que ce qu'il en faut pour égarer les hommes. L'histoire de toutes les nations prouve clairement que les femmes ne peuvent être absolument resserrées dans le cercle étroit des occupations domestiques. Il leur est impossible de bien remplir les devoirs de l'intérieur de leur famille si leur esprit ne prend pas un plus grand essor, et, tant qu'elles sont tenues sous le joug de l'ignorance, elles deviennent les esclaves du plaisir dans la même proportion qu'elles sont les esclaves des hommes. On ne peut leur interdire les grandes entreprises, quoique la petitesse de leur esprit leur fasse souvent croire qu'elles sont incapables d'en concevoir. Le libertinage, et même les vertus des hommes supérieurs, doivent toujours donner aux femmes d'un certain rang beaucoup de pouvoir sur eux, et ces faibles femmes, soumises à l'influence de passions enfantines et de l'égoïsme de la vanité, doivent jeter un faux jour sur les mêmes objets que ces mêmes hommes voient avec des yeux qui devraient éclairer leur jugement. Les hommes à grande imagination, et ces caractères ardents qui tiennent ordinairement le timon des affaires, doivent en général chercher du délassement dans la société des femmes, et je n'ai sans doute pas besoin de citer au lecteur le plus superficiel les nombreux exemples de vices et d'oppression produits par les intrigues particulières des favorites, ni de m'appesantir sur les malheurs qui sont la suite naturelle de l'intervention aveugle de la sottise, même bien intentionnée. Car, en affaire, il vaut beaucoup mieux avoir à traiter avec un fripon qu'avec un sot, parce qu'un fripon est capable de s'attacher à un plan et de le suivre, et on a plutôt jugé un plan raisonnable qu'un écart brusque de la sottise. Le pouvoir que les femmes viles et sottes ont exercé sur des hommes d'esprit, mais trop sensibles, est assez connu. Je me contenterai d'en citer un exemple. Qui jamais traça un caractère de femme plus exalté que Jean-Jacques Rousseau, quoiqu'en général, il ait pris constamment à tâche de rabaisser notre sexe. Et pourquoi ces efforts pénibles? Pour se justifier à lui-même l'affection que la faiblesse et la vertu lui avaient fait nourrir pour cette sotte Thérèse. Ne pouvant l'élever même au niveau commun de son sexe, il s'efforçait de rabaisser les femmes jusqu'à elle. Il avait trouvé en elle une humble compagne qui lui avait convenu, et l'orgueil lui fit imaginer quelques vertus supérieures dans l'être qu'il avait choisi pour vivre avec lui. Mais la conduite de cette femme, pendant sa vie et après sa mort, n'a-t-elle pas prouvé clairement combien il s'était trompé lorsqu'il l'appelait une céleste innocente? Et lui-même ne se plaint-il pas dans l'amertume de son cœur que, lorsque ses infirmités l'eurent forcé de ne plus la traiter comme sa femme, elle cessa d'avoir de l'affection pour lui? Et rien n'était plus naturel, une fois que l'âge avait rompu le lien sexuel, le seul qui unit deux êtres qui avaient si peu de sentiments communs. Pour entretenir une affection dont la sensibilité est restreinte à un seul sexe, et même à un seul homme, il faut un sens droit qui puisse convertir cette sensibilité en humanité. Il n'est pas beaucoup de femmes qui aient assez d'esprit pour avoir de l'affection pour une femme ou de l'amitié pour un homme. Cette faiblesse du sexe, qui fait que la femme dépend de l'homme pour sa subsistance, produit une sorte d'affection enfantine qui fait tourner une femme autour de son mari comme elle ferait auprès de tout autre homme qui pourrait la nourrir et la caresser. Les hommes sont pourtant souvent flattés de cette sorte de tendresse qui se restreint à eux. Mais s'ils devenaient plus vertueux, ils aimeraient à trouver auprès du feu un ami avec qui converser quand ils auraient cessé de jouer avec une maîtresse. D'ailleurs, l'intelligence est nécessaire pour donner de la variété et de l'intérêt au plaisir des sens. C'est occuper, en effet, le dernier rang dans l'échelle intellectuelle que de continuer à aimer lorsque ni la vertu ni le sens ne donnent une apparence humaine aux appétits de l'animalité. L'esprit et les sens auront toujours l'avantage. Et si les femmes ne sont pas en général plus rapprochées du niveau des hommes, quelques femmes supérieures, comme les courtisanes grecques, rassembleront autour d'elles les hommes à talent et tireront de leur ménage beaucoup de citoyens qui seraient restés si leurs femmes étaient plus sensées ou si elles avaient les grâces qui résultent de l'esprit et de l'imagination dont le goût est le fils légitime. Une femme qui a des talents, si elle n'est pas absolument laide, obtiendra toujours un grand pouvoir fondé sur son sexe et à mesure que les hommes deviendront vertueux et délicats par le développement de la raison, ils chercheront dans les femmes de la vertu et de la délicatesse. Mais les femmes ne peuvent acquérir l'une et l'autre que par les mêmes moyens auxquels les hommes les doivent. En France et en Italie, les femmes se sont-elles bornées à la vie domestique? Quoiqu'elles n'y aient pas eu jusqu'ici d'existence politique, n'ont-elles pas eu un pouvoir d'autant plus grand qu'il était acquis par des voies illicites, c'est-à-dire par leur propre corruption et par celle des hommes dont les passions leur servaient de jouet? En un mot, sous quelque rapport que j'envisage ce sujet, la raison et l'expérience me convainquent également que le seul moyen d'amener les femmes à la pratique des devoirs de la vie privée, c'est de les affranchir de toute contrainte en les laissant participer aux droits imprescriptibles de l'humanité. Donnez-leur la liberté, et la liberté les rendra bientôt éclairées et vertueuses, comme elle produit le même effet sur les hommes. Car le perfectionnement des deux sexes doit être mutuel, ou les injustices auxquelles la moitié de l'espèce humaine est obligée de se soumettre, retombant sur ses oppresseurs, les vertus des hommes seront minées par l'insecte même qu'il tient sous ses pieds. Laissez les hommes faire leur choix, l'homme et la femme seront faits l'un pour l'autre, sans devenir un seul être. Mais si les hommes n'améliorent pas les femmes, ils seront corrompus par elles. Je parle du perfectionnement et de l'émancipation du sexe tout entier. Je sais que la conduite de quelques femmes qui, par hasard ou par d'heureuses dispositions naturelles, ont acquis une portion de connaissances supérieure à celle de leur sexe, est souvent devenue insupportable. Mais il y a eu aussi des exemples de femmes qui, aux connaissances, ont su joindre la modestie et n'ont pas affiché un mépris pédantesque pour l'ignorance qu'elles avaient écartée de leur propre esprit. Les exclamations qui ont lieu quand on parle du savoir des femmes, surtout dans la bouche de celles qui sont jolies, naissent donc le plus souvent de la jalousie, quand elles viennent à s'apercevoir que même l'éclat de leurs yeux et le vif enjouement d'une coquetterie raffinée ne fixent pas toujours l'attention pendant toute une soirée. Une femme d'un esprit plus cultivé s'efforce-t-elle de faire prendre à la conversation un tour raisonnable, la source ordinaire de leur consolation est de dire que ce n'est pas avec cela qu'on a un mari. Que de ruses n'ai-je pas vu employer à de ridicules femmes? Quelle manœuvre savante ne leur ai-je pas vu faire pour interrompre une conversation raisonnable dont l'intérêt faisait oublier aux hommes qu'elles étaient de jolies femmes? Mais supposez que, ce qui n'est que trop ordinaire aux hommes, l'effet immanquable de talents distingués soit d'inspirer cette haute opinion de soi-même, également choquante, et dans les hommes et dans les femmes. À quel degré d'infériorité les facultés des femmes ont-elles donc été condamnées si la petite portion de connaissances acquise par celles qu'on appelle par dérision des savantes devient une singularité assez frappante pour enfler celles qui les possèdent et exciter la jalousie dans ses contemporaines et même dans quelques personnes de l'autre sexe? En effet, combien de femmes un peu de raison n'a-t-il pas exposé à la plus sévère censure? Je fais allusion à des faits bien connus, car j'ai vu souvent donner des ridicules à des femmes et relever avec malignité la plus petite faiblesse uniquement parce qu'elles avaient adopté les avis de quelques médecins et qu'elles s'étaient écartées du sentier battu dans la manière de traiter leurs enfants. Cette aversion barbare pour toute innovation a été portée si loin que je viens d'entendre taxer de peu de naturel une femme intéressante qui avait montré cette sollicitude sur la santé de ses enfants et qui, au milieu de ses soins maternels, avait eu le malheur d'en perdre un par un de ces accidents auxquels l'enfant s'est exposé et dont toute la prudence possible ne saurait garantir. Ses connaissances ne manquèrent pas d'observer que c'était là la suite de ses nouvelles idées. Elles appelaient nouveauté les soins de procurer aux enfants plus de propreté et plus d'aisance dans leurs mouvements. Et ceux qui prétendaient au mérite de l'expérience, quoiqu'ils fussent restés longtemps attachés aux préjugés qui, suivant l'opinion des plus habiles médecins, ont abâtardi l'espèce humaine, se réjouissaient presque du malheur qui donnait une sorte de sanction à la prescription de l'erreur. En effet, sous ce rapport seul, l'éducation des femmes est de la plus haute importance, car quel nombre de sacrifices humains sont faits à ce préjugé barbare ? Et de combien de manières les enfants sont détruits par la lubricité de l'homme. Le manque d'affection naturelle dans beaucoup de femmes qui sont détournées de leurs devoirs par les hommages des hommes et l'ignorance de quelques autres fait de l'enfance un état mille fois plus périlleux que celle des animaux. Et les hommes refuseront encore de mettre les femmes à portée d'acquérir des connaissances suffisantes même pour élever ces innocentes créatures. Je suis si pénétré de cette vérité que je voudrais consacrer toutes mes forces à l'établir. Car tout ce qui tend à affaiblir le caractère sacré de la maternité et à lui ôter la capacité de ses devoirs fait sortir la femme de sa sphère. Mais c'est en vain qu'on se flatterait de voir, dans les faibles femmes du siècle présent, ce soin raisonnable du physique des enfants, si nécessaire pour jeter les fondements d'une bonne constitution, en supposant qu'ils ne souffrent pas des péchés de leur père, ou de former leur caractère si judicieusement qu'ils ne soient pas obligés, en avançant en âge, d'oublier tout ce qu'ils ont appris directement ou indirectement de leur mère, leur premier précepteur. Si l'esprit n'est pas d'une trempe peu commune, les politesses des femmes s'attacheront au caractère pendant tout le reste de sa vie et la faiblesse de la mère percera dans les enfants. Tant que les femmes seront accoutumées à compter sur leur époux pour diriger leur jugement, s'en sera là toujours la conséquence, car il n'est pas possible de perfectionner l'intelligence par portion, et personne ne peut agir sagement en se contentant d'être imitateur, parce que dans chaque circonstance de la vie, il y a une sorte d'individualité qui a besoin du jugement pour modifier les règles générales. L'être capable de quelque justesse d'esprit dans un point étendra bientôt son domaine intellectuel, et la femme qui a assez de jugement pour gouverner ses enfants ne se soumettra pas en esclave aveugle à son mari ou aux lois sociales qui condamnent une épouse au néant. Pour garantir les femmes des erreurs de l'ignorance, on devrait leur enseigner dans les écoles publiques les éléments de l'anatomie et de la médecine, non seulement dans l'intention de les rendre propres à prendre soin de leur santé, mais dans celle d'en faire des surveillances éclairées de celles de leurs enfants, de leurs parents et de leurs maris. Car les registres mortuaires sont tous les jours grossis par les bévues de quelques vieilles femmes opiniâtres qui donnent des recettes de leur composition sans rien connaître à l'économie animale. Il n'est pas moins convenable de familiariser les femmes avec l'anatomie de l'âme en laissant les deux sexes s'associer l'un à l'autre dans l'étude des sciences et des arts, sans oublier la connaissance de la morale ni celle de l'histoire politique de l'humanité. On a appelé l'homme un petit monde, et chaque famille pourrait être regardée comme un petit État. Les États, il est vrai, ont été gouvernés en général par des moyens qui déshonorent le caractère de l'homme, et le manque d'une constitution fondée sur la justice et de lois dont l'égalité soit la base a tellement brouillé les notions des sages du monde qu'ils en sont à mettre en question s'il est raisonnable de réclamer les droits de l'humanité. C'est ainsi que de la morale souillée dans le réservoir national partent des ruisseaux empoisonnés qui vont corrompre les parties constituantes du corps politique. Mais si des principes plus nobles, ou pour mieux dire plus justes, servaient de base aux lois qui devraient gouverner à la place des hommes, le devoir deviendrait la règle de la conduite privée. De plus, grâce à l'exercice de leur corps et de leur esprit, les femmes acquerraient cette activité de l'âme si nécessaire dans les fonctions de la maternité, jointe à ce courage qui sait distinguer la fermeté de la conduite de l'obstination perverse de la faiblesse. Car il est dangereux de conseiller aux faibles d'être fermes parce qu'ils deviennent sur le champ rigoureux. Et pour s'éviter de la peine, ils punissent avec sévérité des fautes que le courage patient de la raison aurait prévenues. Mais le courage suppose de la force d'esprit. Et la force d'esprit peut-elle s'acquérir par une condescendance indolente, par l'habitude de demander conseil au lieu d'en prendre de son jugement, et d'obéir par crainte au lieu de mettre en usage cette indulgence dont nous avons tous besoin? La conclusion que je veux tirer de tout ceci est fort simple. Faites des femmes des créatures raisonnables et des libres citoyennes, et bientôt elles deviendront bonnes épouses et bonnes mères, c'est-à-dire si les hommes ne négligent pas les devoirs d'époux et de père. En discutant les avantages qu'on peut raisonnablement se promettre de l'éducation publique et privée, combinées ensemble, comme je le propose, je me suis plus particulièrement appesanti sur ceux qui peuvent en résulter pour mon sexe, parce que je le regarde comme étant dans un état d'oppression. Mais comme la gangrène née des vices, enfant de l'oppression, n'est pas bornée à la partie malade, mais se répand à la longue dans toute la société, en désirant voir les femmes devenir des agents libres, mon cœur se dilate par avance dans la jouissance de cette sublime satisfaction que l'on ne peut devoir qu'à la morale et à la vertu.